Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est d'interroger le rapport entre métropole, mondialisation d'une part, et d'autre part, les dimensions culturelles et, qui sont notamment activées par le tourisme. Je vais appréhender le touristique comme un producteur d'urbanité, d'une part, et aussi comprendre comment le touristique est aujourd'hui une culture urbaine qui est partagée. Par un grand nombre de personnes, de métropolitains. Et je vais m'intéresser donc à la coprésence d'habitants temporaires dans les villes, qui sont en tant que touristes, de façon, dans un laps de temps limité, et également qui habitent touristiquement ces espaces, c'est-à-dire qui ont un rapport à cet espace qui est très spécifique. Donc je vais développer une perspective de l'habité sur l'espace urbain et je vais essayer de poser la question de quelle façon le touristique constitue aujourd'hui un élément central des dimensions culturelles des métropoles contemporaines. Alors, vous l'avez compris, je travaille beaucoup ou avec le terme habité, et qui est un terme à la fois facile et difficile. Facile parce qu'il est utilisé beaucoup aujourd'hui. Difficile parce qu'on a souvent tendance à penser que ce sont seulement les habitants, donc ceux qui résident quelque part, qui habitent, notamment dans leur manière de développer un rapport très, très spécifique à un lieu, notamment autour de la familiarité, de la quotidienneté, des routines. Et j'ai essayé notamment à partir, mais en modifiant complètement le sens de la contribution de Martin Heidegger, de donner une autre façon de penser cette question de l'habité. Alors Heidegger dit la chose suivante, habiter, c'est la manière dont les mortels sont sur la terre. Donc c'est toujours le sur la terre qui est intéressant, d'ailleurs qui est beaucoup repris en géographie par Augustin Berg par exemple, hein, ce souci de être sur la terre. Qui est en effet un point intéressant, en même temps que je pense que c'est plus, et je vais essayer de le dire brièvement tout à l'heure, c'est plus un faire avec l'espace qui est intéressant. Heidegger le dit aussi d'une autre façon, habiter, c'est le rapport des hommes aux lieux et par les lieux aux espaces, c'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est en fait la spatialité, le fait d'être en relation, en lien, en rapport avec les lieux. Donc c'est le rapport au lieu, c'est un terme aujourd'hui aussi très utilisé en géographie, qui est central. Il le dit même encore plus précisément, qu'est-ce qu'être humain? Être humain signifie être sur la terre en tant que mortel, c'est-à-dire habiter. Donc la dimension finalement spatiale ou la spatialité, ou aujourd'hui on dit aussi très volontiers la géographicité, fait partie de notre être humain. Alors, je ne vais pas entrer en détail dans tous les problèmes que pose la philosophie de Heidegger. On l'a vu aussi récemment avec les cahiers noirs dont on a beaucoup discuté. On pourrait le faire, hein. Peut-être Cerisy serait un lieu pour ça aussi. Heidegger était présent à un moment donné. Mais on ne va pas le faire. En revanche, je vais vous proposer autre chose qui est aussi pour moi très important dans cette réflexion sur habiter, parce que, notamment une citation, très, très brève citation de Merleau-Ponty qui a beaucoup résonné aussi en Allemagne, il a changé même une façon sémantique en allemand, puisque le verbe transitif habiter n'existe pas en allemand, et donc on a dû l'inventer. Un philosophe allemand l'a inventé comme un verbe transitif. Donc Merleau-Ponty avait beaucoup d'importance aussi pour les philosophes allemands. Il dit la chose suivante, que je trouve très très bien. Il ne faut donc pas dire que notre corps est dans l'espace, ni d'ailleurs qu'il est dans le temps. Il habite l'espace et le temps. Et c'est exactement ça que je veux exprimer quand je dis faire avec l'espace. C'est que on n'est pas dans un espace pré-configuré. On fait avec les éléments d'ordre spatial dans nos pratiques quotidiennes ou extra-quotidiennes. C'est pour ça que pour moi, c'est un point très, très fondamentale si on veut comprendre ce que habiter veut dire, ce que l'ensemble des pratiques dans lesquelles avec où on mobilise des dimensions spatiales sont importantes. Et donc j'appréhenderai les pratiques touristiques comme des formes d'habiter qui mobilisent d'une certaine façon différentes dimensions spatiales. On pourrait dire que voilà, je défends une thèse, habiter c'est faire avec l'espace, c'est être mobile, ce sont des coprésences temporaires dans l'espace public, ce sont des routines, des ruptures de routine, c'est faire habiter, c'est faire émerger des lieux familiers, mais aussi pratiquer des lieux autres. Et à travers l'étude du tourisme, justement, les pratiques touristiques, on a ce qui est central, et c'est ça d'ailleurs que Heidegger n'avait pas compris, c'est qu'il y a aussi le rapport au lieu autre qui est central, et pas seulement la création de la familiarité. Donc, vu comme ça, c'est justement un outil, habiter, un outil conceptuel pour comprendre les pratiques touristiques, dans mon cas, et bien sûr toutes sortes d'autres pratiques pour ceux qui veulent étudier d'autres types de pratiques. On peut aller très en détail de l'étude des pratiques sous l'angle de l'habité en travaillant sur différentes dimensions, enjeux, problèmes d'ordre spatial et notamment interroger comment les individus mobilisent leurs compétences, les dispositions, les techniques, les instruments, les représentations, les imaginaires. Et dans le cas du tourisme et des touristes, c'est exactement ce qui se passe et ce qui est, tout à l'heure Olivier Mongin a parlé des outils numériques par exemple, ça c'est l'un des instruments aujourd'hui qui permettent aux touristes d'habiter, de développer un certain rapport au lieu et de modifier aussi leur habiter. Et d'ailleurs on peut se poser la question si aujourd'hui le tourisme existe encore, au sens où la gestion de l'ici et de l'ailleurs à travers les instruments numériques abolit dans une certaine façon le rapport entre quotidien et extra-quotidien. Et par exemple, quand je suis ailleurs et que je fais tout de suite un update de mon statut sur Facebook ou si je télécharge des photos sur Flickr ou dès que j'ai pris la photo ou j'envoie des mails et SMS, je garde un lien avec le quotidien qui auparavant était plus ténu. On pouvait bien sûr envoyer des cartes postales, mais c'est autre chose que envoyer un SMS ou bien télécharger des photos sur Flickr. Donc, il y a là des éléments dans l'ensemble de ces problèmes d'habiter qui peuvent nous faire comprendre ce que c'est que le tourisme, le touriste et toutes sortes d'autres types d'habitants aussi. Et en venant de cette dimension-là, de cette perspective sur l'habité, je dirais justement que le résident n'est pas le seul qui habite. Le résident habite, le touriste habite, le travailleur habite. Dès qu'il y a une mobilisation des dimensions spatiales comme problème, comme enjeu, on est face à des questions d'habité. Et c'est pour ça que pour moi, un travail sur la métropole ne peut pas se faire sans prendre en compte l'ensemble des modes d'habiter, des manières d'être en lien avec les lieux, la ville qu'on doit appréhender, y compris le touriste. On doit aussi appréhender le touriste comme quelqu'un qui habite. Voilà, maintenant vous avez à peu près compris comment je travaille sur ces questions. Il y a un deuxième point sur qu'est-ce que ça veut dire le tourisme, qu'est-ce que ça veut dire le touristique. Et ce qui est très intéressant, dans la littérature maintenant on l'a compris, tout peut être touristique. Et d'ailleurs les acteurs culturels l'ont compris, on met en tourisme les moindres petites choses. Il y a des écomusées partout sur la fabrication du fromage. J'ai fait une excursion une fois pour dans le cadre d'un d'un colloque à Sion, dans une petite laiterie, écomusée. Tout peut être mis en tourisme aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que nécessairement tout est touristique, mais tout peut être touristique. Et ça, c'est un point très important. Il suffit, et c'est, bon, je vais le développer très brièvement tout à l'heure, il y a un anthropologue, sociologue américain qui a travaillé là-dessus, il s'appelle Dean McKennell, dans les années 70 déjà, qui a compris qu'il y a un rapport entre le touriste, un marqueur, et la chose à mettre en tourisme, et que dans cette relation entre les trois, il y a l'émergence du touristique, et que donc tout peut être marqué comme étant d'un intérêt touristique. Et c'est là notamment l'un des éléments centraux pour comprendre comment les attractions touristiques sont produites aujourd'hui. Hein. Il y a une production d'attractions touristiques tous azimuts, et ça provient notamment de ce marquage. Donc je vais vous proposer une thèse, c'est de ne plus parler en termes de tourisme comme un secteur séparé d'autres secteurs économiques, mais de parler en termes de touristique, et je dis la chose suivante. Le touristique est un rapport au monde qui encode de façon spécifique les pratiques. Ça a pour conséquence un changement d'attitude, de sens de l'ensemble des objets urbains et modifie les métropoles et les pratiques des touristes. Ça veut simplement dire que le touristique comme un rapport au monde signifie simplement que le rapport à l'ensemble de ce qu'on fait, à l'ensemble des objets, se modifie dans la situation. Ce ne sont pas les objets qui se modifient, c'est le rapport à l'objet qui se modifie. Par exemple, notamment dans la visite des métropoles, ce qui devient, et c'est très intéressant quand on analyse des guides touristiques ou même des entretiens avec les touristes, pour par exemple Paris, un ensemble d'éléments qui sont gênants dans le quotidien, par exemple le bruit, l'animation, la densité, donc tout ça, ce sont des éléments codés négativement dans le quotidien, qui sont codés positivement comme cosmopolitisme, la grande ville, l'excitation dans le hors quotidien. Et donc c'est pas le bruit, etc., qui change, la densité qui change, c'est le rapport à la densité qui change. Et ça, c'est un point que je trouve très intéressant, qu'on doit aussi comprendre. Il y a bien sûr un tas de choses qui ne fonctionnent pas comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des activités qui sont très différentes, qui sont autres dans le hors quotidien par rapport au quotidien, ça existe aussi. Mais il y a notamment dans les métropoles un recodage en quelque sorte, un rapport au monde qui est différent, et que j'appelle donc le touristique comme un rapport au monde. Je peux peut-être rapidement évoquer deux travaux précurseurs pour arriver à cette conception du touristique comme rapport au monde. Il y a d'abord John Harry qui parle du tourist gaze, le regard touristique, comme justement un individu armé d'un certain regard sur le monde. Ça, je pense que c'est un point intéressant. J'en ferai pas la critique aujourd'hui. Et puis, ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, un modèle de l'attraction touristique comme un système de signes, c'est-à-dire où il y a une relation entre un marqueur, donc on va dire que voilà, c'est la pierre qui a été ramenée de la Lune par Apollo 13. Non, je crois qu'Apollo 13 a explosé, non. Enfin, Apollo 11, disons. par rapport à une pierre qui ne serait pas marquée comme spécial en quelque sorte, et donc pour un touriste lambda, les deux pierres ont le même aspect, mais c'est le marquage de la pierre comme spécial qui aura de l'effet. Donc ce que je peux peut-être très rapidement dire, que je préfère maintenant donc le concept de touristique ou du touristique au concept de tourisme pour ces raisons que j'ai données, et notamment pour éviter qu'on considère que le tourisme soit un secteur à part. On pourrait même poser la question s'il faut encore des politiques touristiques, s'il faut encore un ministère, même si en France ça n'a jamais tellement existé, un ministère du tourisme, mais intégrer ce regard touristique Et les manifestations du touristique dans l'ensemble des activités et des politiques aussi. Et ça a comme conséquence d'identifier des touristes comme étant simplement des habitants qui sont dans une autre situation, hein, identifier des habitants de façon situationnelle, dans une certaine situation où ils développent un certain rapport à la ville, un certain rapport au monde, et qui, justement, on pourrait en discuter très longuement. Alors, de quoi est-il fait, ce rapport au monde? Alors, peut-être de façon très rapide, je pourrais dire qu'il est fait notamment du couplage entre la recreation, la recréation, et le déplacement, le rapport à un lieu autre, hein, le codage d'un lieu comme étant un lieu autre. C'est ça aussi qui fait la différence entre un loisir, disons des gens qui sont dans leur quotidien, dans le familier, et qui vont au musée comme le font les Chinois, même si les Chinois vont très peu au musée, ils préfèrent acheter du Louis Vuitton. Donc, dans une certaine situation où on peut identifier des habitants qui font des choses spécifiques ou pas spécifiques, mais qui développent un certain rapport au monde. Un point qui, du coup, est pour moi très important, c'est de voir cette habité touristique comme l'expression d'une certaine culture urbaine. Et c'est là aussi qu'il y a le lien entre les trois ou quatre colloques à faire entre le culture, la créativité, l'urbain et le tourisme. Habiter touristiquement, c'est une culture urbaine qui est partagée aujourd'hui par des métropolitains. Ce qui est quand même frappant aujourd'hui, c'est que aujourd'hui le Parisien va à Shanghai et la semaine d'après le Shanghaïen vient à Paris. Donc les rapports changent entre aujourd'hui il y en a un qui est résident et qui habite touristiquement une autre grande ville et après c'est l'autre qui vient, donc il y a une circulation et donc le rapport classique entre host and guest, hein, c'est ça comme on a beaucoup réfléchi comme ça en anthropologie par exemple. Alors, il n'est plus aussi évident. Il y a des habitants mobiles, c'est pour ça que j'insiste aussi sur ce terme, qui habitent touristiquement dans un laps de temps relativement court aussi. On ne part plus pendant 3 mois et on ne s'installe plus pendant 3 mois quelque part, comme ça a été le cas jusqu'en 1914 ou même, si on tire un petit peu, jusqu'en 1930. Donc il y a une nouvelle façon d'être touristique, il y a de nouvelles cultures touristiques qui se développent et qui sont des cultures urbaines. Alors je vous ai apporté pour travailler sur cette culture urbaine et sur le lien entre habité et culture urbaine. Deux exemples. Le premier touche à la question de la patrimonialisation. C'est très intéressant, il y a encore 15 ans, en géographie, il y avait pratiquement pas un seul travail sur la patrimonialisation. Et, notamment Olivier Lazzarotti, quand il a fait son HDR en 2000 ou 2001, on l'a regardé un petit peu comme un ovni. Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, c'est dans le mainstream. Il y a eu des colloques à n'en plus finir. Et donc ça, c'est un point intéressant. Donc la patrimonialisation, que je trouve très intéressant, parce que c'est comme pour la mise en tourisme, comme la touristification. C'est un changement de regard sur les objets qui restent eux-mêmes, bon, on pourrait dire identiques, mais qui changent en changeant de fonction, en changeant de regard sur l'objet. On change bien sûr aussi le statut de l'objet. Et j'ai une étudiante qui a travaillé, c'est pour ça que je l'ai apporté ici, qui a travaillé sur la pratique touristique de l'ancien ghetto de Rome et qui a fait une hypothèse très intéressante sur le lien entre la patrimonialisation, donc la mise en tourisme de l'ancien ghetto de Rome, et un travail de deuil par rapport à la Shoah, en prenant notamment comme référence le travail de Henri Rousseau sur Vichy, un travail sur le deuil Je trouve ça très intéressant parce que on dit toujours le tourisme, bon, les pratiques touristiques, mais qu'est-ce qui se cache derrière les pratiques touristiques qui sont vues comme évidemment touristiques? Eh bien, il se cache aussi des pratiques qu'on a peut-être un petit peu plus de mal à comprendre. Et notamment, je pense que parfois aujourd'hui on parle de tourisme mémoriel. C'est une expression que je n'aime pas parce que je n'aime pas qu'on plaque toutes sortes d'adjectifs après ce terme tourisme, hein, tourisme culturel, tourisme urbain, tourisme de montagne, etc. Je crois que ça, c'est vraiment une limite à nos façons de penser les choses. Et donc, pourquoi on se déplace aujourd'hui dans des situations touristiques? C'est aussi pour un travail, on pourrait dire, plus psychanalytique sur nous-mêmes. Et la question du deuil est, à mon avis, un point important. Et donc, le tourisme comme prétexte aussi de traiter des problèmes psychiques est peut-être aussi un point intéressant à considérer. Alors, donc il y a là un travail approfondi qui a été mené par Olivia Sandri sur cette question de l'ancien ghetto de Rome, avec un travail de patrimonialisation qui est Rome, hein, qui est une ville touristique depuis très longtemps, mais où la prise de conscience de donc la patrimonialisation, au sens vraiment d'un processus d'appropriation d'éléments comme étant dignes d'intérêt, dignes d'être préservés, est plus récent. C'est un petit quartier qui aujourd'hui accueille surtout des touristes américains, hein, à la recherche de traces juives à Rome. Alors, je l'évoque juste, peut-être on peut en discuter tout à l'heure. Il y a un deuxième point sur la culture urbaine, c'est la question de la cohabitation entre le touriste et les autres habitants de la ville. On pourrait utiliser le terme de Henri Lefebvre, le droit à la ville, le droit à la centralité, que je trouve très intéressant, très productif pour réfléchir à ce qui se passe dans la ville. Bon, Michel a travaillé sur la lutte des places. Et donc là où c'est une expression aussi très, très productive, je trouve, qui peut être justement utilisée pour à la fois travailler sur le droit à la centralité, droit à la ville, et donc aussi la lutte qui est engagée pour cette place-là. Et pour le touriste notamment, accéder au centre de la métropole est un enjeu, parce qu'on peut considérer que, notamment avec la périurbanisation et la suburbanisation des 80 dernières années, il n'y a plus de résidence dans le centre, mais quand même une pratique du centre qui se perpétue, et notamment à travers les pratiques touristiques. Donc c'est un enjeu, et parfois c'est un problème. Et donc j'ai un autre exemple sur le Gängeviertel à Hamburg, qu'a travaillé une autre étudiante pour son mémoire de master, qui est un squat artistique. Et là aussi on fait le lien avec les cultures urbaines et la question du squat qu'on a entendu les derniers jours. Hamburg, Gängeviertel, c'est un exemple très célèbre parce qu'il en est sorti même un manifeste pour le droit à la ville, qui a beaucoup circulé en Allemagne et qui a eu un certain succès parce que, je rappelle juste en trois phrases ce qui s'est passé. Il y a un promoteur privé qui a acheté un ensemble d'immeubles pour en faire un centre commercial. Il y a eu après une contestation, une mobilisation très forte d'artistes de l'ensemble de la population de Hambourg. Et pour l'occuper de façon festive dans un premier temps. Et ça a pris des proportions telles que la ville a racheté à l'immobilier privé l'ensemble. Et ils ont conclu un contrat de développement avec les artistes qui peuvent y rester pour les 20 prochaines années à des loyers très modérés pour faire donc leur travail artistique, créatif. Donc c'est à la fois un lieu festif et puis un lieu de création. Et la question se pose, alors, quelle est la place du touriste là-dedans? À la fois, le touriste donne une certaine résonance à ce qui se passe, donc il pourrait être instrumentalisé par les artistes. Il y a beaucoup, d'étudiants en architecture qui visitent ce lieu pour regarder ce qui se passe. Il y a peut-être un partage aussi d'imaginaire sur ce lieu qui est entre des touristes, des artistes, les habitants qui se fait. En effet, un lieu de liberté, de création, d'un certain sens commun, d'un certain sens du commun aussi. Mais en fait, les touristes sont vus plutôt comme des outsiders par les artistes, donc sont rejetés. Hein, dans les entretiens, c'est très intéressant de remarquer que c'est trop intrusif. Hein, les touristes viennent, ne savent pas d'ailleurs est-ce qu'il s'agit de l'espace public ou de l'espace privé, hésitent aussi dans la circulation, c'est un ensemble de maisons. Les touristes, que font-ils? Ils prennent des photos, et ça c'est vu comme étant extrêmement intrusif par les artistes. Donc là, il y a un conflit autour de la présence de touristes en ce lieu. Et ce qui est très intéressant, donc les artistes considèrent que tout le monde est le bienvenu. Hein, c'est un lieu pour tous. Mais bien sûr, enfin pas bien sûr, mais de façon intéressante, les touristes sont exclus dans ce tous. Hein, dans le tous, on n'inclut pas les touristes. Alors juste très très rapidement, la situation du Gängeviertel, qui est relativement centrale, donc c'est un lieu de la centralité. Alors, je voulais quand même parler aussi un petit peu de mondialisation. Et alors, pour ceux qui étaient là quand on a vu le film de Jacques Lévy sur les villes-mondes, sur la mondialité des villes, j'ai été frappé par l'absence d'une notion qui pour moi est centrale, c'est la notion centralité, justement, une centralité, et non pas au sens il y a un centre par rapport à une aire d'influence régionale comme c'est fait classiquement en géographie, mais qui a une influence, en fait, au niveau mondial. Je pense qu'aujourd'hui, il convient de réfléchir sur ce qu'on pourrait appeler les centralités mondiales, qui est un terme pratiquement pas utilisé. Il se trouve à deux ou trois endroits chez Saskia Sassen, qui a travaillé sur la Global City, mais qui a commencé à travailler sur la centralité mondiale du secteur financier. Et je pense que, mais après, qui a été plutôt laissé tomber, au profit de la notion « global city » ou « world city ». Et je pense qu'il faut le réintroduire, ce terme, parce qu'il permet aussi de travailler sur des lieux urbains autres que les grandes villes. Par exemple, sur Cerisy ou sur Ayers Rock. Hein, sur des éléments aussi qui pourraient avoir une résonance touristique, par exemple. Des petits lieux comme Zermatt qui font par exemple 5000 habitants, mais qui attirent des gens du monde entier. Plus d'une centaine de nationalités sont présentes à Zermatt. Pour moi, c'est l'expression d'une centralité mondiale. Et donc, c'est pour ça que j'utilise dorénavant le terme champ mondial ou champ touristique, parce que c'est précisément par rapport à un certain champ que se met en place cette centralité. Et pour les métropoles, c'est exactement la même chose. En fait, ce qui se passe dans les métropoles, dans la touristification des métropoles, parce qu'il faut le penser comme un processus aussi, et donc c'est un ajout de centralité à l'échelle mondiale pour les métropoles. Ainsi, on peut imaginer brièvement une métropole sans tourisme, ce qui, bien sûr, aujourd'hui, est impossible, mais si on a fait cet exercice et qu'après, on pense l'ajout de touristes, d'habitants du monde entier qui pratiquent la métropole, alors on comprend qu'il y a un processus de, non seulement de touristification qui change l'urbanité, mais aussi, du coup, un processus de mondialisation de la métropole qui avait peut-être déjà été mondiale sous d'autres aspects, mais pas encore celui du tourisme. Et donc, il y a l'insertion de la métropole dans un champ mondial touristique qui est à l'œuvre. Et ça, c'est un point intéressant. Je m'intéresse aussi au classement, comment est-ce qu'on classe, comment est-ce qu'on produit des chiffres. Et il y a une guerre des chiffres, par exemple, entre Paris et Londres. Oui, moi j'ai 15 millions de touristes, moi j'ai 15,5 millions de touristes, et donc c'est moi la première. Ça c'est bien sûr intéressant à analyser. Donc j'ai pris simplement, parce que les chiffres sont pas très fiables, je voulais juste vous montrer une carte, ce que ça veut dire aujourd'hui, les ordres de grandeur, quand on parle du tourisme dans des villes, combien, alors est-ce qu'il y a 1 million ou 15 millions, et là c'est uniquement, on compte uniquement là dans les peu importe dans les classements, entre 15 millions de touristes étrangers, donc seulement les étrangers, pas les nationaux, sont représentés. Les chiffres sont pour la plupart faux, mais c'est pas grave. C'est simplement, c'est simplement un ordre de grandeur. Bon, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de 100 millions de touristes ou 60, etc.? Alors moi, j'estime qu'à Paris, il y a à peu près 60 millions de nuitées par an, 30 millions de touristes, français, étrangers, nationaux, étrangers compris. Bon, voilà. Londres, c'est à peu près la même chose. Voilà. Juste un ordre de grandeur pour comprendre de quoi on parle. Ce champ touristique mondial a changé au cours du temps. Bon, c'est pas un scoop, mais on peut essayer de retracer depuis 200 ans ce qui s'est passé. On a essayé de faire cet exercice qui est un petit peu difficile. Quels sont les lieux touristiques dans le monde depuis 1800, disons? Dans un premier temps, le champ touristique a été très localisé sur l'Angleterre, l'Europe continentale. Après, il s'est étendu à l'Amérique du Nord. Et aujourd'hui, il est proprement mondial, au sens où l'ensemble de la planète est touchée, avec des accélérations très brusques entre 1870 et 1914. Et entre 1970 et 2000, donc il y a des accélérations, il y a une production très grande de lieux touristiques. Donc il y a aussi des rythmes d'émergence du champ touristique mondial qui sont intéressants à prendre en compte. Et donc je propose qu'on travaille sur des centralités qui sont liées à des champs sociaux. Donc on peut travailler pas seulement sur le champ du tourisme, mais aussi sur d'autres champs, le foot, les musées, la littérature, la science. Et c'est pour ça que je trouve assez intéressant le travail de Pierre Bourdieu là-dessus, sur la question des champs, même s'il n'a pas du tout pensé à la dimension spatiale, mais travailler sur des lieux, des différents champs, et de travailler sur les centralités est un point intéressant. Et ce qui est très important aussi, c'est que cette centralité n'est pas que matérielle, mais aussi symbolique. Alors donc je ne sais pas s'il faut vraiment insister sur ce point. J'ai deux ou trois citations pour comprendre ce que champ veut dire. Un champ se définit entre autres choses en définissant des enjeux et des intérêts spécifiques qui sont irréductibles aux enjeux et aux intérêts propres à d'autres champs. On ne pourrait pas faire courir un philosophe avec des enjeux géographes et qui ne sont pas perçus de quelqu'un qui n'a pas été construit pour entrer dans ce champ. Chaque catégorie d'intérêt implique l'indifférence à d'autres intérêts, d'autres investissements, ainsi voués à être perçus comme absurdes, insensés ou sublimes, désintéressés. Et donc, on a développé aussi le concept de champ touristique, justement, de cette façon-là. Ce qui est très important pour les métropoles, et on en a discuté un petit peu hier sur des questions de singularité, comment produire de la singularité. Il y a un point que je trouve intéressant de David Harvey qui travaille avec le concept de capital symbolique des villes. Et ça, je trouve justement un point intéressant. Il y a à la fois comme outil de compréhension, hein, pour les géographes, pour comprendre ce qui se passe. Il y a un engagement d'un capital symbolique par les villes, mais aussi pour les villes, parce qu'il y a là un travail qui est effectué sur le capital symbolique dans les politiques urbaines, dans les politiques touristiques. Ce qui est important, c'est pour ça que je me permets de citer un autre géographe, Jérôme Monnet, qui a travaillé sur la centralité symbolique, justement. Ça, on avait complètement oublié, et je crois que son mérite, c'est de le mettre au centre. C'est-à-dire que la centralité, ce n'est pas seulement un ensemble d'éléments matériels, mais aussi un ensemble d'éléments symboliques. Et justement, pour travailler sur les lieux, il faut aussi comprendre leur centralité symbolique. Et ça cadre bien avec la position de Bourdieu sur le champ, qui est aussi un problème symbolique. Justement, il faut que ce soit perçu d'une certaine façon pour que ça fasse sens. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ce que j'ai voulu montrer, c'est que l'urbanité aujourd'hui des métropoles est caractérisée par des éléments de recréation, peut-être traduire comme recreation, donc comme élément ludique, sous toutes ses formes. Une nouvelle qualité de l'urbanité qui émerge avec ce que j'avais appelé à un moment donné le recreational turn, un tournant recréatif, recréationnel des villes européennes, où justement un ensemble d'éléments sont codés comme étant d'un intérêt touristique ou de loisirs au sens très général, à travers les festivals, les sports, le patrimoine, le shopping, la musique, l'art contemporain, un musée, qui constituent un ensemble d'éléments vont en direction d'une nouvelle économie qui n'est plus tournée vers la production d'objets, mais vers la production d'expériences, la recréation en quelque sorte. Et ce qui est quand même important, c'est de ne pas seulement se focaliser sur ce recreational turn au sens relativement étroit, mais de travailler aussi sur les habitants temporaires mobiles de façon générale. C'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a pas que des touristes dans la ville, il y a des gens qui viennent de façon temporaire pour toutes sortes de projets, pour toutes sortes d'intentionnalités. Qui sont mobiles, qui sont présents temporairement. C'est ce que Laurent Davzy appelle l'économie présentielle. Et la ville, la métropole monde aujourd'hui, mais sans doute depuis longtemps déjà, fonctionne comme ça, autour de services qui sont proposés à ces habitants temporaires mobiles. Et c'est, à mon avis, une façon, notamment en France, on a arrêter la production industrielle, de survivre pendant au moins les 50 prochaines années. Merci beaucoup.